Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au désordre mondial, je suis votre arbitre Rachel Marsden. L'Ukraine, qu'est-ce qu'on a raté pour arriver là où on est aujourd'hui? Regardons-nous de plus près l'anatomie d'une tentative échouée. Sinon, on dirait même que l'échec risque de devenir une tendance avec l'Ukraine et la Syrie, tous les deux des tentatives échouées de renverser les gouvernements en place. Mais comme un avion qui s'écrase, ce n'est pas une seule chose qui tourne mal et fait qu'on arrive jusque-là. C'est plutôt toute une série d'événements et d'embrasements, chacun représentant une série de portes de sortie qui furent loupées. Ce n'est pas le fait que le gouvernement en Ukraine n'a pu changer au profit des pays occidentaux qu'on pourrait dire qu'il y a bien eu une révolution ou un coup d'État fructueux pour l'Ukraine et les pays occidentaux. Pour cela, il aurait fallu une vraie révolution. Et il y a bien une différence entre révolte et révolution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine qui a fait que ce révolte n'a pas enfin abouti en révolution? C'était vers la fin de 2013 que des dizaines de milliers de manifestants envahissent les rues de la ville de Kiev, bloquant l'accès au bureau du gouvernement et menaçant de commencer ce que les médias appelaient préemptivement, sinon à tort, une révolution. Tout cela fut lié à une décision de la direction pro-russe en Ukraine de renoncer à un accord de libre-échange avec l'Europe qui aurait représenté une distanciation de la sphère d'influence russe. Aurait-il eu de la subversion venue de l'extérieur pour inciter les manifestants? En tout cas, l'idée même d'une opération clandestine, c'est que cela ressemble à un événement organique. Mais à ce point-ci, au point des manifestations, il ne s'agissait pas de révolution. Et les gens du monde entier semblaient avoir oublié ce que ce mot signifie réellement. Comme tant d'autres ces jours-ci, il semble que le sens même du mot est devenu si dilué pour être pratiquement dénué de sens. C'est même un peu pathétique. Quand on pense à un révolutionnaire, cela évoque l'image des gens tels que Che Guevara. Laissant à côté son idéologie, au moins Che n'était pas chez sa maman en train de créer des affiches pour des manifestations et de réfléchir à comment il allait se faire livrer des pizzas pour lui et ses potes alors qu'il se passait des jours en campant à la place publique. Les manifestants d'aujourd'hui, partout dans le monde, sans penser qu'ils peuvent exécuter des coups d'État, des gouvernements soutenus par des superpuissances avec le même effort exigé pour cliquer un bouton « like » d'une page Facebook. Les gouvernements, en particulier ceux avec le soutien des superpuissances, ne peuvent pas être évincés d'une manière définitive et durable, à moins que les manifestants aient deux choses. Premièrement, le soutien de l'armée de l'État, ou au moins une grande faction de celui-ci, ou bien une grande fenêtre Overton élargie, celle-ci étant définie comme la plage des idées et des résultats jugés acceptables par l'opinion publique. Quand on savait déjà très bien que ces deux éléments-là n'existaient pas dans l'est de l'Ukraine avec une population d'origine russe, pourquoi étonnerait-on qu'au moins une partie du pays, la Crimée, la région de l'Ukraine, qui est d'ailleurs la plus riche en ressources, ne se laisserait pas se soumettre? Le plan largement pratiqué pour de telles révolutions est celle de la révolution bulldozer, qui a renversé Slobodan Milosevic en Yougoslavie en 2000. La planification et la stratégie pour que la révolution soit lié à un cycle électoral, comme en 2004 en Ukraine avec la Révolution orange. En revanche, en 2013, tout s'est passé bien en dehors d'un cycle électoral, un élément qui est capital pour maintenir au moins la moindre couverture démocratique pour le coup d'État. Il n'y avait aucun chef d'opposition pour donner l'apparence de galvaniser le soutien des manifestants non plus. Le bilan final qu'on voit alors aujourd'hui, c'est un président ukrainien Petro Poroshenko, qui n'a rien pu changer sur le fond pour transformer le pays pour le mieux ou arrêter la corruption oligarchique, et aussi une relation bien pire avec la Russie. Et peut-être même pire que ça, les Néerlandais ont eu un référendum populaire sur l'association de l'Ukraine avec l'Union européenne, avec 61% des votants rejetant l'idée. L'Ukraine aurait bien pu diversifier son économie autrement pour obtenir un meilleur équilibre entre la Russie et l'Occident. Ils avaient déjà, par exemple, signé un accord pétrolier et gazier avec l'entreprise Eni en Italie et celle d'EDF de la France, qui aurait pu leur valoir jusqu'à 4 milliards de dollars. Le pays avait déjà aussi signé un accord gazier de 10 milliards de dollars avec la société américaine Chevron. De tels accords auraient pu aider l'Ukraine à devenir un fournisseur d'énergie au-delà de rester une intermédiaire ou un client. Aurait-il été possible tout simplement de poursuivre de tels partenariats économiques qui sont bien alignés avec la réalité du pays, coincé géographiquement entre la Russie et l'Occident, au lieu de tenter des chances avec une action politique abrupte et aiguë dont le retour fut enfin douteux? Avec moi aujourd'hui pour discuter de cette question, Patrick Desjardins a servi plus de 40 années au sein de l'armée de l'air française, du grade de lieutenant à celui de général. Il a servi en opération extérieure et a mené une activité parachutiste pendant 35 années. Il a encadré des unités de commando parachutistes de l'air et notamment en 2006, l'ensemble des forces de sécurité de l'armée de l'air. Pendant 3 années au collège de l'OTAN, il a assumé les responsabilités de directeur des cours, chargé de préparer des diplomates et officiers supérieurs de près de 70 pays à tenir des postes de responsabilité dans les organisations internationales. Bienvenue à l'émission, Patrick. Merci à vous. Alors, où en est-on aujourd'hui par rapport à l'Ukraine et les intérêts de l'Europe et de la Russie?
Pour faire une réponse courte, je dirais que on a remis la géopolitique au centre des débats, car la réalité d'aujourd'hui, elle est basée sur des choses très simples, de mon point de vue. C'est la combinaison de thèmes tels que la géographie, l'histoire, les intérêts nationaux, et puis de la volonté politique. Et dès qu'il s'agit d'aborder les relations entre l'Ukraine, la Russie, l'Union européenne, il est intéressant, de mon point de vue, de regarder quels sont les prismes par lesquels on peut aborder cette question. Si on se limite à un seul prisme, on risque de perdre un peu la grille de lecture et de voir échapper des idées ou du moins des éléments qui pénalisent l'analyse. Je vous donnerai un exemple. Me semble-t-il que l'approche Union européenne-Russie est déjà un élément essentiel. Mais la relation entre l'Union européenne et la Russie ne peut pas non plus s'envisager sans un regard sur la notion entre l'OTAN et la Russie.
Oui, bien sûr.
Et de même entre l'OTAN et l'Union européenne.
Oui, il y a beaucoup d'enjeux, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on fait l'amalgame souvent entre les États-Unis et l'OTAN. On dit que c'est souvent la même chose. Est-ce que vous croyez que c'est vrai, que les États-Unis, ça contrôle l'OTAN largement?
Non, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est amusant que ce soit un Français qui dise ça, compte tenu du retrait de la structure militaire intégrée en 66 par le général de Gaulle. Non, l'OTAN est une organisation politico-militaire dont le processus décisionnel repose sur le consensus. Et puis, pour vous donner un exemple précis, au sommet de Bucarest en 2008, c'est l'Allemagne et la France qui ont opposé leur veto à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Donc on est bien sur une organisation où chaque voix compte et où le consensus est recherché. Ce qui fait d'ailleurs la force de cette organisation, car dès lors que les 28 pays membres prennent une décision, ça veut dire qu'il y a un engagement fort de ces 28 pays.
Alors aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, on voit qu'il y a des enjeux pour les Européens qui sont opposés apparemment aux enjeux des Russes. Où dans tout ça se trouvent les États-Unis?
Alors c'est intéressant comme question parce que effectivement quand on voit la chronologie de l'histoire, c'est là où l'histoire est importante, c'est là où il faut à un moment donné faire un arrêt sur image et regarder d'où on vient pour essayer de comprendre où l'on est. Sur le développement de l'Union européenne et du projet russe de Vladimir Poutine, d'abord sur la communauté économique eurasiatique qui est devenue l'Union économique eurasiatique au 1er janvier 2015.
C'est une zone d'échange, une zone économique.
Alors c'est oui, mais c'est peut-être plus que ça, puisqu'on parle d'union douanière, on parle de marché commun, on parle de libre-échange, ouais, avec des accords d'association qui lient les pays membres. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ça à la façon dont l'Union européenne a développé aussi ses politiques de partenariat oriental et de voisinage. Et quand on voit les dates auxquelles ces processus ont débuté, il est intéressant de constater que il y a peut-être pas eu forcément une explication, une pédagogie associée pour expliquer quels étaient les objectifs à atteindre. Et c'est souvent ça qui dans toute problématique est intéressante, c'est de revenir sur l'état final recherché. Et aujourd'hui, on a peut-être l'impression que lorsque ces processus ont débuté, les objectifs à atteindre, les objectifs finaux à atteindre, n'étaient pas tout à fait correctement expliqués.
Oui, mais en même temps, est-ce que ce serait accepté aussi par les divers pays? Parce qu'il y a tellement d'intérêts qui jouent ici. C'est quoi l'intérêt de l'Ukraine? C'est difficile à constater parce que d'un côté, il pourrait profiter de l'échange, de la commerce, de la sphère russe, et de l'autre côté, il pourrait bien profiter du côté de l'Europe. Ils ont une réalité géopolitique qui est très difficile à changer parce qu'ils sont planqués entre les deux. Alors, pourquoi faire une telle action qui mène à un changement très radical, à court terme, qui paraît avoir aucun retour pour eux, moment?
Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, ça met en évidence la question suivante. Y a-t-il incompatibilité dans les deux projets? Y a-t-il incompatibilité dans le partenariat oriental et la politique de voisinage, avec l'accord d'association économique qui a été signé pour l'Ukraine et pour d'autres pays? Y a-t-il incompatibilité avec le projet d'union économique eurasiatique? Certains disent que dans certains domaines, il n'y a pas incompatibilité. La question se pose dès lors qu'on aborde la question douanière, puisqu'à partir du moment où on a un accord douanier, effectivement, cela complique les choses. Quand la France a des accords douaniers, c'est aussi au titre de l'Union européenne, si vous voulez. Cela dépasse les accords bilatéraux. Donc on peut se poser effectivement la question de ces deux plaques tectoniques qui se chevauchent et qui, dans leur élaboration, auraient peut-être bénéficié d'un peu plus de pédagogie. Il y a, et ça c'est un point sur lequel moi je suis assez convaincu, c'est qu'il y a les faits et il y a la perception des faits.
Mmh. Oui, alors la perception des faits, bien sûr, ça évoque le fait qu'on aurait pu peut-être éviter ce qui s'est passé et on aurait pu faire autrement que de créer une situation d'urgence, de crise. Pourquoi est-ce que parfois les choses aboutissent à ce résultat quand on a bien des diplomates? On a des gens qui sont censés de se parler, on a des organisations internationales telles que l'ONU, l'OTAN, les sommets G8, G20, G machin, et tout le monde semble être en train de se parler tout le temps. Alors pourquoi c'est nécessaire de faire des choses comme ça?
Mais quand vous êtes 28 à décider sur le processus sur la base du consensus, vous imaginez bien que l'approche consensuelle nécessite que chacun fasse des compromis. Il n'y a pas une voix qui l'emporte par rapport aux autres. Si vous êtes au sein de l'Union européenne et que vous traitez des questions de sécurité et de défense, c'est l'unanimité qui est la règle. Donc vous voyez que là aussi, c'est très contraignant. Quand vous prenez le processus décisionnel en Russie, ça repose essentiellement sur un homme. Donc ça va peut-être un peu plus vite. C'est ça la difficulté de l'Union européenne et de l'OTAN.
Mais est-ce que les gens s'entendent, vous croyez? Est-ce qu'ils s'écoutent? Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils comprennent? Ou est-ce que c'est une question de s'imposer son point de vue sur l'autre toujours?
Non, la négociation est toujours délicate et chacun essaye de trouver un compromis avec, bien sûr, la valorisation de ses intérêts. Ce que je veux dire, c'est que au sein des organisations, notamment dans la relation de l'Union européenne ou de l'OTAN avec la Russie, vous avez à la fois cette relation entre organisation et la Russie, mais vous avez au sein de chaque organisation des pays représentés. Au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, vous n'avez que 22 pays qui appartiennent en commun aux deux organisations. Et au sein de ces pays, vous avez des pays qui, au titre bilatéral, ont des relations différentes aussi avec la Russie. Donc des intérêts différents.
Oui, mais c'est pas eux qui auraient pu négocier quelque chose de plus sympa. Parce que ce qui m'avait frappé, du point de vue personnel, je me rappelle qu'il y avait les JO de Sochi qui étaient en train de se dérouler en Russie. Et du coup, il y avait un embrasement en Ukraine qui est arrivé du coup de nulle part. Et puis là, l'attention était portée sur ça. On s'est demandé, tout le monde, comment ça s'est passé. On avait l'impression que c'était lié à l'accord, le rejet de l'accord avec l'Europe, entre l'Ukraine et l'Europe, et le fait que le pouvoir n'avait pas envie de ça. Mais aujourd'hui, ils ont de nouveaux problèmes. Alors, je me demande s'ils auraient été possible d'avoir une manière d'éviter... ce résultat-là, comment est-ce que le nouveau pouvoir en Ukraine aurait pu mieux gérer la situation, à votre avis?
Alors, je peux pas répondre très précisément à cette question parce que ça serait facile de trouver une solution. En revanche, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là? Alors là aussi, c'est assez facile de tirer sur le pianiste et de dire si j'avais été à telle place, j'aurais fait ceci ou cela. Il est évident, de mon point de vue, que à la fin de la guerre froide, dans les années 80-90, lorsque on a créé les structures de dialogue politique avec les organisations et les pays avec la Russie, il est certain qu'on aurait peut-être pu faire différemment avec en engageant un partenariat solide, fort, comme c'était fait d'ailleurs à partir de 94 et 97 avec le Conseil OTAN Russie, qui aurait permis un dialogue politique au sein duquel il y aurait eu une sorte de double pédagogie. Alors j'entends pas la double pédagogie parce que je suis assez attaché, et ça c'est l'expérience que je tire du Collège de l'OTAN, sur l'importance de l'interculturalité, et la façon dont les cultures, si vous voulez, sont perçues d'un bord ou de l'autre. Et je crois qu'on n'a pas su suffisamment prendre en compte l'aspect culturel, c'est-à-dire comment fonctionnent des sociétés, sociétés européennes, sociétés russes, européennes bien sûr, ou sociétés américaines. On a au sein de l'Europe des cultures anglo-saxonnes, latines, qui n'ont pas les mêmes éléments d'appréciation, de dynamique au sens de la façon de réfléchir, de la façon de présenter les choses, de la façon de les écouter, de la façon de les expliquer. Et en termes de partenariat, dès lors que vous avez des gens qui ont des cultures différentes, des histoires différentes, si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez à l'échec.
Mais c'est pas normal que les diplomates fassent ça. C'est leur rôle, non?
Mais ça c'est ce que je dis. Ça, c'est la théorie, si vous voulez.
Oui.
Après, bien sûr, là-dessus, il faut pas non plus être naïf et trop idéal. Il y a là-dessus se greffent les intérêts nationaux,
pays.
Si vous voulez. Mm-hmm. N'oubliez pas que business is business, mm-hmm. et qu'on restera toujours mm-hmm. sur cette équation. Il n'en demeure pas moins qu'on peut en créer des partenariats solides, stratégiques, opératifs, si vous voulez, mais dès lors qu'il y a une bonne compréhension de chaque bord. Et si je prends par exemple certains dialogues avec certains pays, il faut être extrêmement dur en négociation, mais c'est pas parce qu'on est dur en négociation qu'on va forcément critiquer les gens. Ça fait partie des règles, si vous voulez. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, cette sensibilité pour prendre en compte cela, vous pouvez très bien vous trouver dans des situations difficiles où vous ne comprenez pas. Ouais, et à partir du moment où vous ne comprenez pas, vous n'écoutez plus.
Ouais, c'est la même chose dans les affaires, dans le domaine des affaires, et je comprends bien. Parfois, on a des négociations avec des autres qui viennent de pays divers, et il faut prendre conscience de la culture de la personne avec qui on est en train de négocier, parce que ça informe leur manière de fonctionner, le prisme, comme vous avez bien dit au début de l'émission, par travers lequel ils interprètent tout. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on voit, ce qu'on ressent d'une manière instinctive. Et je ne sais pas si ça peut être enseigné, mais peut-être qu'il faudrait bien.
Moi, je peux vous donner simplement un retour d'expérience. Au Collège de l'OTAN, pendant 3 ans, mon travail consistait à répartir des auditeurs de 45 ans de moyenne d'âge dans des comités où ils travaillaient de façon consensuelle. Vous mettez un Turc, un Grec, un Arménien, un Azerbaïdjanais, un Américain, un Britannique. Vous imaginez bien que chaque diplomate ou chaque officier avait sans doute des points de vue différents ou bien arrêtés. L'idée, c'était d'expliquer et non pas de convaincre. L'idée, c'était d'écouter. Et quand je dis écouter, c'était de l'écoute active, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre pourquoi quelqu'un a telle position. Ensuite, on essaie de mettre sur la table des éléments de compréhension, des éléments d'analyse. Et à travers cet échange, il y avait la grille de la prise en compte de la culture, de l'histoire, avec des sensibilités qui sont différentes. Parce que l'histoire a été marquée par des guerres, par des conflits, qui sont pour certains pays encore récents et qui sont d'une sensibilité extrême.
Et je me demande alors s'il faudrait mieux avoir des hommes d'affaires et des femmes d'affaires dans les positions politiques parce que ils sont habitués aux négociations. Aujourd'hui, on voit Donald Trump aux États-Unis qui, je crois, après cette semaine, serait le candidat, même si c'est pas officiel avant l'été. Je pense que officieusement, il serait le candidat du côté républicain. C'est un homme d'affaires qui a dit que, bien, avec lui, il voit tout par travers le prisme du business, de la négociation. Mais c'est pas forcément ce qu'on voit avec les types politiques, purement politiques.
Dans mon expérience opérationnelle, j'ai toujours compris qu'il fallait à un moment donné savoir où on allait. Voilà. Donc c'est toujours plus facile d'expliquer aux gens dont vous avez la responsabilité, si vous savez où vous allez, de les embarquer quelque part. Ça, c'est la condition sine qua non. Après, il y a la stratégie, c'est-à-dire le moyen d'y arriver. Mais c'est la vision. Et ça, c'est le plus difficile, parce que la vision, elle s'inscrit dans un terme qui n'est pas le court, qui n'est pas ni même moyen, c'est le long terme.
Et il faut que ça change aussi, par nécessité.
Oui, mais la difficulté, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, de mon point de vue encore, c'est que ça, il faut avoir un certain courage politique pour dépasser des considérations, on va dire, bassement politiciennes et d'envisager, au-delà du mandat, si vous voulez, une vision. C'est ça qui est difficile. Alors cette vision, elle est compliquée parce que le monde dans lequel on vit est un monde qui a beaucoup changé, qui montre que chaque jour qu'il y a ce qu'on appelle des ruptures stratégiques, c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas prévues. D'ailleurs, Rumsfeld l'a très bien dit, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que pour être préparé à ça, c'est compliqué. Et avoir une vision, c'est très compliqué aussi. Donc je crois que ces visionnaires, ces hommes politiques, il en faut. Et on peut dire effectivement que peut-être pour le business as usual, vous mettez un entrepreneur ou un...
Quelqu'un qui
patron,
sait comment négocier,
mais,
qui fait
voilà,
ça toute sa vie.
Mais s'agissant de la vision, là, il faut redonner aux politiques sa vraie nature, qui est de faire de la politique.
Non, mais je ne suis pas convaincue non plus qu'il faut attendre à ces gens-là d'avoir la vision. Je pense que celui qui construit une entreprise, qui est entrepreneur, il faut que celui-là ait une vision pour aboutir, parce que sinon, il n'est pas motivé. Et c'est une autre chose. Je pense que les politiques, ils ont une visio qui termine à la fin de chaque cycle électoral. Ça, c'est mon avis personnel. Mais bon, une dernière chose, en parlant de la friction entre les différents partis, les incidents d'avions de chasse entre les États-Unis et la Russie dans l'Europe de l'Est, repris dans les médias, sont-ils aussi graves qu'on a tendance à faire croire aujourd'hui? On en parle assez souvent de ces jours.
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est grave, ça ne l'est pas. C'est grave dans la mesure où, effectivement, il y a des violations de l'espace aérien, il y a des procédures qui ne sont pas respectées, il y a des règles qui sont violées, et donc, effectivement, elles aboutissent ou elles conduisent à des incidents qui peuvent déboucher sur des crises graves. On l'a bien vu entre la Turquie et la Russie. Ceci dit, il faut bien voir que on est toujours dans un rapport de force, d'influence, de tests permanents sur les capacités, sur la réactivité. C'est un peu la règle, le jeu, si vous voulez. Alors c'est un jeu dangereux certainement, mais il faut pas s'en étonner. Ça a toujours eu lieu. Je me souviens de l'Islande en 2007, après le retrait des troupes américaines, où l'espace aérien était confié, la défense de l'espace aérien islandais était confiée à l'OTAN. Il est certain que les avions russes ont voulu tout de suite tester la réactivité de l'organisation pour savoir si la protection de l'espace islandais était assurée. Donc voilà, c'est...
Intéressant. Patrick Desjardins, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints ici sur l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desordremondial.com ou sputniknews.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.